Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot. Au menu du jour, l'Italie, le championnat d'Italie et son insoutenable suspense quand on sait que la Juventus de Turin a gagné les 8 derniers titres. Alors, les autres sont-ils résignés? Pas du tout. La preuve, Naples a inquiété la Juve samedi et l'Inter Milan a beaucoup d'appétit en ce début de saison. Nous allons en parler avec Matteo Cioffi qui est en ligne avec nous dans un instant et avec nos invités du jour. Philippe Doucet de Canal+. Bonjour Philippe.
Bonjour maître.
Franck Simon de... C'est beaucoup, l'attaque fort. Franck Simon de France Football, bonjour Franck.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Plus sobre. Eric Rabé, Sandra Tana est avec nous également, bonjour Eric.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et
Thomas
à tous.
Thomas de Saint-Léger, bonjour Thomas.
Bonjour Christophe, bonjour tout le monde.
Focus sur le calcio à la lumière du mercato, des résultats des deux premières journées, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça, et à l'ombre si l'on peut dire, de cette nouvelle affaire de racisme, Lukaku visé par des cris de singe dimanche à Cagliari, nous en parlerons aussi. Un classique ce vendredi à Hambourg, Allemagne-Pays-Bas en éliminatoire de l'Euro 2020. Les Néerlandais avaient cédé chez eux en mars face aux Allemands. Van Dijk et les siens aimeraient beaucoup rendre l'appareil à leurs adversaires. Et puis l'Afrique voit déjà bien au-delà de 2020. Les éliminatoires du Mondial 2022 ont déjà commencé sur le continent. Tour préliminaire aller avec une victoire pour Djibouti par exemple, c'est rare. On va en parler et on écoutera notamment Emmanuel Trégouat, revenu aux commandes du Tchad qui rencontre aujourd'hui le Soudan. Radio Foot préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Sono contento, felice, sono con la famiglia. Dai, facciamo qualche cosa tutti insieme.
Lukaku contro Olsen e il gol. L'Inter è in vantaggio.
Mio padre era di Brescia, sempre stato a Brescia. Mia mamma era felicissima.
Clamoroso errore di Koulibaly, è sfortuna incredibile.
Le championnat d'Italie. Tiens, on va commencer en évoquant les transferts. L'été n'a pas été aussi agité médiatiquement que celui de l'année dernière, quand Cristiano Ronaldo était arrivé à la Juve. Mais le mercato s'est quand même refermé lundi soir et il a été assez animé tout de même, Thomas de Saint-Léger.
Oui, si on se fie aux chiffres, voilà, des clubs italiens assez dépensiers cette année, 1,18 milliard d'euros. C'est une légère hausse par rapport à l'an dernier, légère dans l'échelle des transferts. Hein, 60 millions d'euros. L'Italie, la Serie A, c'est le troisième championnat le plus dépensier cet été, derrière bien sûr la Première Ligue et la Liga espagnole. En ce qui concerne le top 3 des transferts, nous avons d'abord bien sûr Matthijs de Ligt qui a rejoint la Juventus Turin en provenance de l'Ajax pour 85 millions d'euros. Mmh. Ensuite, Romelu Lukaku, 65 millions pour signer à l'Inter Milan depuis Manchester United. Et puis Irving Lozano, l'ailier mexicain, 38 millions d'euros cette transaction du PSV Eindhoven à Naples. Donc Juve, Inter, Naples, c'est aussi l'ordre des clubs les plus dépensiers cet été. 188 millions pour la Juventus, 155 pour l'Inter, 128 pour Naples.
Alors Matteo Cioffi n'a pas été transféré, il est toujours avec nous sur RFI et il est en direct. Bonjour Matteo.
Bonjour, je suis toujours là parce que je suis pas marié avec Bandanar.
Comme vous savez teaser. Alors, est-ce que l'Italie est de plus en plus attractive, comme c'est le but avec cette fiscalité, cette nouvelle loi hein, pour aménager la fiscalité, pour attirer les pointures dans le championnat? Est-ce que le bilan de ce mercato 2019 est jugé bon en Italie?
Bah, certainement, ce nouveau système fiscal a convaincu pas mal de joueurs d'accepter de venir jouer en Italie. On l'a vu, il y a eu vraiment des équipes qui ont été révolutionnées dans leur effectif. Il suffit de regarder l'Inter, par exemple, qui, vous l'avez dit, a dépensé plus de 150 millions d'euros pour acheter des joueurs de très haut niveau. Et on l'a déjà vu comme l'attaquant Lukaku, mais il y a aussi Naples qui n'est pas resté la regarder les autres, car il s'est renforcé surtout en attaque avec cette jeune promesse mexicaine qui s'appelle Lozano. Ensuite, à son côté, il y a une recrue qu'on connaît très bien ici en Italie, c'est-à-dire l'Espagnol Fernando Llorente, qui a décidé de faire son retour en Italie après avoir joué à la Juve. Et puis, quoi dire aussi de la Fiorentina qui a rappelé ce petit vieillard de Franck Ribéry. Pour l'instant, il n'a pas joué beaucoup, mais on attend de le voir vraiment dans les matchs qui comptent, surtout dans les prochains mois. Et puis, il y a l'AC Milan qui est en train d'essayer de retrouver la belle vie comme au bon vieux temps. Et ils ont cette politique d'achat qui constitue à prendre des joueurs très jeunes pour essayer faire en sorte qu'ils puissent devenir des talents. C'est donc un mercato vraiment très animé. Ça faisait des années qu'on ne le voyait pas aussi bouger autant. Et je crois même que c'est le record absolu pour ce qui concerne l'achat. Un milliard, 1,18 comme ouais, Thomas Saint-Léger a très bien dit
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, on va revenir un peu sur tous ces clubs que vous venez de citer. Mais d'abord, Philippe, quand vous entendez cette liste, Philippe Doucet, est-ce que vous vous dites que l'attractivité est de plus en plus grande et que le coût avec la loi est réussi?
Oui, puis à vrai dire, avant même la loi, ça fait quand même 2-3 ans que la Serie A, mine de rien, est en train de redevenir attractive. Elle l'était sur le plan des noms des clubs, qui restent très attractifs. Les noms, les grands clubs sont là, même un Milan AC qui finit 6-7e attire encore des joueurs, alors pas le top mondial normal puisqu'ils jouent pas la Ligue des Champions, mais ils attirent quand même des joueurs, ils demeurent attractifs. Et effectivement, les lois fiscales qui ressemble un peu à ce qu'on a fait en France, hein, mine de rien, l'impatriation. Enfin, on l'a pas fait pour le foot, nous, c'est la différence. mais en dehors de ça, les lois fiscales sont un plus, évidemment, parce que ça donne des moyens. À ce niveau-là, sur les grands étrangers, c'est les clubs qui payent les impôts. Donc, c'est pas les joueurs que ça intéresse en premier lieu. Mais, in fine, évidemment, le club, puisque une partie des impôts disparaît, peut payer davantage un joueur. Et évidemment, ces lois ont une importance. L'Italie a toujours un petit peu joué sur les lois fiscales pour être attractive. Pendant quelques années, c'était plus la mode. On considérait que le calcio, enfin les clubs italiens avaient tellement déconné que c'était plus populaire, si vous voulez, vis-à-vis d'un gouvernement, c'était plus populaire d'avoir des lois spécifiques pour le foot, pour aider, etc. On y revient parce que le foot en Italie, ça demeure central. Voilà, c'est la différence avec d'autres pays.
Il y a quand même encore Eric, il y a quand même encore un sacré écart avec l'attractivité d'une Espagne ou d'un championnat d'Angleterre.
C'est difficile de rivaliser pour l'instant avec l'Espagne et l'Angleterre, forcément, entre les droits télé qui sont vendus des milliards maintenant. Mais après, les résultats aussi sportifs ont fait avec la Roma qui a fait un bon parcours en Ligue des Champions, la Juve qui est tout.
La Juve elle-même.
Elle a toujours été attractive.
Ouais. Elle peut attirer autant de joueurs que les clubs de première ligue ou des Espagnols.
Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, c'est parce que t'as une tête de gondole aujourd'hui qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Aussi. C'est lui qui, depuis qu'il est arrivé, finalement, permet de remettre un petit peu le championnat italien à une place un petit peu qui correspond sans doute plus aux ambitions du football italien des clubs, parce que il y a une époque, mais j'ai l'impression de jouer les anciens combattants dans un autre siècle,
c'est vrai,
où ils écrasaient tout, sauf qu'entre temps ils ont été doublés, dépassés et largués par les clubs espagnols, anglais bien sûr, et puis même les clubs allemands à un moment donné se sont montrés devant quoi. Mm-hmm. Là c'est vrai qu'il y a Cristiano, et puis bon il y a quand même quelques anciens qui arrivent, et puis il y a De Ligt qui je pense est lui pour le coup un jeune grand talent.
Mais ta vraie vitrine c'est quand même les résultats sportifs. Donc au niveau européen, tu vois, donc là à partir du moment où tu recommences à avoir un peu de valeur dans les équipes comme la Juve ou comme même la Roma, ou alors t'as l'Inter qui va peut-être se positionner un peu plus, t'as le Milan qu'on attend depuis longtemps à revenir sur une scène, alors c'est compliqué pour le Milan, mais c'est voilà, on les attend aussi depuis le temps qu'ils ont fait des résultats incroyables en Ligue des Champions. T'attends des clubs comme ça pour relancer un petit peu la dynamique italienne.
Alors, la Juventus de Turin, Matteo, vous êtes avec nous, dites-nous tout. Est-ce que la Juve file déjà vers un 9e titre consécutif? Ou bien il y a un espoir pour les autres? Sur ce que vous avez vu, sur ce que vous sentez de ce début de saison, l'arrivée de Sarri, évidemment, au poste d'entraîneur, après 5 ans d'Allegri?
Oui, je répondrai en faisant retour à ce match dingue, épique de samedi soir. Mm-hmm. Après 65 minutes de jeu, tout le monde pensait, allez, c'est fait, c'est tout écrit, la Juve est trop fort, le Scudetto est déjà dans sa poche, et blabli et blabla. Puis quelque chose a changé, l'équipe de Maurizio Sarri s'est un peu emballée et a commencé à concéder à l'adversaire quelque chose et quelque chose encore. Les Napolitains ont tout de suite profité. L'égalisation a donc montré que la Juve peut avoir des passages à vide. Et c'est là et c'est dans ces passages à vide que les adversaires devront à tout prix mettre en valeur ce qu'ils peuvent faire devant un adversaire de cette taille. Il ne faut pas laisser filer aucune chance. Il faut en profiter. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions, à mon avis, cette année, mais il faudra essayer de le faire. Napoli a presque réussi à le faire. C'était presque un exploit s'il n'y avait pas eu ce malheureux erreur de Kalidou Koulibaly. Donc, la Juve est certainement actuellement l'équipe à battre, il n'y a aucun doute. Mais attention, il y a ces passages à vide, notez bien ça. Pas moi, mais les joueurs. Ouais.
Franck,
Je vais peut-être enfoncer une énorme...
Elle est vulnérable, cette Juve?
Oui, elle l'est, comme l'a dit Matteo.
Parce qu'il y a quand même cette particularité aussi que ce match entre la Juve et Naples est venu très très tôt dans la saison.
Mais justement, je voulais insister là-dessus, peut-être au risque d'enfoncer une porte ouverte, mais je trouve que c'est bien parce que c'est un championnat en plus qui est diffusé maintenant, rediffusé sur le continent africain, donc ils peuvent avoir ces belles affiches eux aussi. Et on a tout de suite une grosse affiche, et je trouve que c'est une super pub pour le coup. T'as un match comme ça, comme le disait Matteo, le qualifier d'un match un peu dingue, et voilà, tu débutes le championnat sur un truc comme ça, quasiment. Et ça donne une image plutôt agréable.
C'est complètement
agréable.
Nouveau d'ailleurs.
Oui, parce oui,
que
en
les
plus.
Les Italiens avant avaient d'abord ils commençaient très tard, ils commençaient début septembre.
Oui, c'est vrai.
Et ils commençaient alors avec des petits matchs. Tous les gros jouaient des petits matchs.
Ça ronronnait.
Petit
quoi.
À petit, ça ronronnait. Ouais. Aujourd'hui, le football a changé. La Ligue des Champions, il faut être prêt beaucoup plus tôt. Mmh. Il faut, si possible, ne pas avoir trop de très gros matchs entre deux matchs de Ligue des Champions qui sont très proches. Et les Italiens, comme les autres, se sont mis à faire jouer des gros matchs dès le début. Et c'est sympa parce qu'il y avait non seulement Juve-Naples, mais il y avait Roma Lazio également.
Oui,
enfin,
Lazio
Roma, pardon. Ouais. Et c'est sympa, je trouve que c'est bien.
Oui, non,
Vas-y.
Thomas, Matteo parlait des absences côté Juve. On parlait aussi de Ligt. Il en a été quand même l'illustration sur le match contre
c'est
Naples.
C'est incroyable, même
voilà.
Son match.
C'est quand même censé être la recrue star de l'été.
Exactement.
À la Juve. Chiellini, en plus, attention, s'est blessé pour 6 mois. Donc, il va devoir tenir la baraque avec Bonucci, bien sûr, pendant quasiment toute une grande partie de la saison. Et pour l'instant, De Ligt, il est relativement inquiétant.
Ouais, il est très inquiétant. Moi, je regarde où. Là, il sombre complètement dans ce match. Où là il est en retard sur le marquage, il est au niveau vitesse, au niveau concentration, il fait des erreurs énormes sur c'est ce qui permet justement à Naples de revenir dans ce match. Donc on le dit voilà, il y a l'erreur de Koulibaly, c'est un miracle pour Naples, hein, pour la Juventus quand même, parce que là la dynamique avait complètement basculé pour Naples, et on voyait même pas la Juventus. Merci Dybala d'avoir obtenu ce coup franc, même si c'est un coup de poker aussi de Sarri, mais moi je les ai trouvés très en difficulté, j'avais l'impression qu'ils étaient fatigués aussi. Alors comme tu le disais Philippe, maintenant il faut être prêt plus vite pour la Ligue des Champions. Donc du coup peut-être que la préparation a changé, mais il faut la digérer. On sait qu'elle est difficile en Italie. Donc voilà, De Ligt a peut-être pas digéré la préparation, mais en tout cas j'ai trouvé très très absent au fil du match et en grande difficulté.
Matteo, le jeune De Ligt, qui est la recrue star, a été assez critiqué par la presse italienne, j'imagine. Dites-nous quelle est un peu la tonalité. Est-ce qu'on lui laisse le temps quand même, ou est-ce qu'on est déjà très 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 sévère? Et aussi un mot de cette blessure de Chiellini, qui à 36 ans va devoir se remettre d'une blessure qui est lourde pour
c'est
un footballeur.
Dur, hein.
Non, alors pour ce qui concerne De Ligt, la presse n'a pas été aussi méchante, mais tout le monde a dit « Monsieur De Ligt, bienvenue en Serie A, ici c'est un autre monde, il faudra quand même s'habituer ». Et à mon avis, il aura le temps de s'habituer, c'est trop tôt. Il a joué seulement un match dans une équipe avec un potentiel énorme, on vient de le dire. Donc il faut donner du temps à ce jeune homme qui a quoi, 20 ans. Donc C'est encore un jeune. Pour ce qui concerne Giorgio Chiellini, ça c'est vraiment une blessure qui fait de mal, et c'est le même Roberto Mancini qui a dit je suis vraiment désolé pour Giorgio parce que on a besoin de quelqu'un comme lui. Je crois que la même pensée l'a eu Maurizio Sarri. De toute façon, Giorgio Chiellini est surnommé King Kong car c'est un guerrier. Il appartient à la génération des Buffon, des Totti, des De Rossi, c'est-à-dire tous ces sportifs qui ont toujours travaillé en donnant vraiment le tout pour le tout. Surtout que Chiellini est un exemple professionnel, jamais en retard aux entraînements, jamais fait parler de lui en dehors du terrain pour quelques bêtises ou gestes idiots. Toujours prêt à serrer la main aux adversaires, même à Suarez, ceux qui voulaient lui bouffer l'épaule. Donc c'est vraiment... Donc c'est quelqu'un qui a un énorme caractère, et personnellement je suis sûr qu'on le reverra sur le terrain bien avant les 6 mois qu'on lui a prévu, que les médecins ont prévu pour guérir sa blessure, qui est quand même la blessure la plus grave de sa carrière et qui arrive à 36 ans. Donc
Eric.
Bah en fait oui, la grosse part de qui va faire qu'il peut revenir très vite, c'est le mental. Maintenant, c'est son corps qui va dire aussi s'il est capable de se remettre de cette blessure. Parce qu'en fait, voilà, on va voir si ça se remet, si ça se consolide et s'il va pouvoir reprendre très vite. Le mental, ça va être une grosse partie, mais c'est quand même le corps qui va parler.
À propos de blessure, mais cette fois à l'orgueil, juste un petit mot, Mathéo, sur cette liste que Sarri a communiquée pour la prochaine Ligue des Champions, liste des joueurs qui la disputeront. L'Allemand Emre Can n'est pas dedans, et alors il a piqué une sainte colère en parlant de la malhonnêteté au moins du club, si ce n'est de Sarri. Comment ça se passe là-bas ?
Dans l'après-midi, ils étaient tous malhonnêtes, Maurizio Sarri et le club. En soirée, on a lu sur Twitter des mots beaucoup plus diplomatiques de la part du joueur, qui a quand même souligné qu'il est très lié au club de la Juve, qui doit beaucoup à ce club, surtout lorsque l'année passée, il a été blessé. La Juve ne l'a jamais quitté. Donc... Et oui, c'est vrai, Emre Can voulait à tout prix jouer la Ligue des Champions parce que c'est une vitrine que tout le monde ne veut pas rater. En plus, l'année prochaine, il y aura l'Euro 2020. Donc, tout le monde, tous les joueurs de ce niveau-là veulent avoir de la visibilité dans cette compétition. On peut comprendre, mais il faut aussi comprendre que la Juve n'a pratiquement rien vendu cet été. Et donc, elle se retrouve avec 25, 27 joueurs qui peuvent être tous titulaires de l'équipe.
Alors venons-en à Naples, qui est donc le dauphin de la Juve pour le dernier championnat. Naples qui a commencé par aller battre la Fiorentina 4-3, puis qui a perdu ce match sur la pelouse de la Juventus 4-3 aussi. Ça fait donc 7 buts pris en 2 matchs, si on veut voir le mauvais côté des choses. Philippe.
Mais le championnat italien a changé. C'est ceux qui pensent que le catenaccio est encore de rigueur... peuvent s'apercevoir que non. Certes, il y a de temps en temps des relents, parce qu'il y a une culture, bien sûr, très forte. Mais malgré tout, en Italie, le jeu est plutôt spectaculaire. Il y a plutôt de très bons attaquants. Il y a plutôt pas mal de buts. Je pense que l'année dernière, c'était le 3e championnat. L'Allemagne est toujours en tête. Il devait y avoir, j'ai un petit doute. Je pense que l'Espagne était 2e, là. Et l'Italie 3e au nombre de buts, devant la France, devant l'Angleterre, qui était plus bas. Donc oui, il faut rendre grâce à ceux qui en sont les acteurs, et on a plusieurs entraîneurs italiens. Sarri en était un, bien évidemment, avant à Naples, qui Ancelotti, ses équipes jouent. Voilà, il y a plein d'entraîneurs qui font jouer leurs équipes. Aujourd'hui, il y a du foot. L'Atalanta est un très bon exemple l'an dernier, en développant un football de qualité, en finissant 4e avec des jeunes. Voilà, un bon modèle qui réconcilie avec cette Serie A qui effectivement un petit peu disparu de nos yeux, on la regardait plus, c'est vrai. Mais ça date déjà, il y a depuis 3-4 ans, moi je regarde à nouveau l'Italie.
Franck,
c'est grâce à moi.
Franck, quand vous voyez ces buts encaissés par le Napoli, ça dénote déjà une certaine fragilité défensive. C'est inquiétant pour vous, ou c'est juste question de réglage de début de saison?
Je mettrais plus ça d'abord, effectivement, sur des réglages à effectuer. Parce que c'est le début de championnat, que comme le disait Eric aussi, il y a une digestion de la pré-saison. Et puis puis aussi l'adversité, parce que c'est la Juventus, c'est pas n'importe quelle équipe en face. Ça a été un match un petit peu dingue, et voilà, les équipes se sont livrées l'une après l'autre, ça a failli basculer. Moi je trouve que ça va plutôt dans le, ça va dans du bon côté, je dirais, du jeu de football. C'est ce qu'on attend aujourd'hui de matchs et d'affiches comme celle-là, et je crois que le Napoli ils vont régler ça assez rapidement. Non, je suis plus inquiet pour la Juve, pour le coup, et sa solidité, sa presque historique ou traditionnelle solidité défensive, avec en plus une perte importante, un transfert d'un joueur qui a du mal pour l'instant, même s'il n'est pas encore décrié ou trop critiqué. Donc voilà, c'est plutôt de ce côté-ci que mes doutes vont, du côté de cette défense qui a été friable contre le Napoli.
Et puis il y a l'Inter, hein, qui est vraiment redevenue intéressante avec un effectif largement remanié, un nouvel entraîneur, Antonio Conte. Matteo, on a évoqué déjà, effleuré le sujet Lukaku, mais il y a bien d'autres recrues qui font que l'Inter de Milan est particulièrement ambitieuse cette année.
Oui, on le respire ici en ville. Il y a un grand enthousiasme de la part des supporters de l'Inter qui, jamais comme cette année, espère vraiment être l'outsider de la Juve pour la course au titre. L'équipe impressionnée surtout dans sa première sortie, 4-0 face à Lecce. Ensuite, ils ont réussi à gagner sur un terrain pas facile comme celui de Cagliari, même si grâce à un penalty, mais ils ont quand même bien joué, c'est ça qui compte. Vous l'avez dit, Lukaku en attaque est déjà devenu un atout très fort d'Antonio Conte, mais il faut dire que la grande qualité, on l'a vu avec l'arrivée de Stefano Sensi, qui est un appui fondamental au niveau offensif. Stefano Sensi est déjà titulaire de l'équipe italienne de Roberto Mancini, et ensuite à son côté on attend beaucoup Nicola Barella, qui est l'autre milieu de terrain de la nationale, qui est ce joueur que Conte avait demandé pour donner à l'équipe, cette créativité en termes de construction de l'action. Donc il y a Barella, il y a Sensi, derrière il y a M. Godin qui est plus trop jeune, mais quand même a une grande expérience, et je suis sûr qu'il fera du bonheur de la défense interiste. Donc il y a pas mal de gens qui sont arrivés, ajoutant aussi les Chiliens Sanchez, où je mettrai un gros point d'interrogation après sa dernière année au Manchester United, qui n'a pas été vraiment, bonne.
Alors, on va reparler de Lukaku et ce qui lui est arrivé à Cagliari, hein, dans quelques instants. Mais d'abord, sur le départ de Mauro Icardi, Matteo, on en a parlé évidemment en début de semaine lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain. C'est un bon débarras pour l'Inter?
J'ai entendu des klaxons pendant toute la nuit lorsqu'ils ont donné la nouvelle.
Ouais.
Non, parce que je vous confirme que beaucoup de tifosi de l'Inter vraiment n'en pouvaient plus, avaient commencé à détester le joueur. Ils avaient même quelques idiots avaient même commencé à mettre des banderoles à côté de la maison du joueur avec des menaces. Il faut que tu t'en ailles. Il n'y a plus le temps. On commence à avoir marre, etc., etc. Donc ça a été vraiment le feuilleton triste de cet été pour l'Inter. Ça termine très mal. Un joueur qui a donné beaucoup à l'équipe, mais qui s'en va vraiment en faisant beaucoup de bruit. Donc, ici, les interistes sont contents. Ils ont retrouvé un autre attaquant qui s'appelle Lukaku, donc ils sont bien contents que Mauro Icardi et sa femme ne soient.
Vous qui le connaissez, qui le suivez depuis des années, entre ce qu'il fait sur le terrain et son entourage, évidemment, sa femme que vous citiez l'autre jour, et son rôle sur les réseaux sociaux, très active, etc. Est-ce que le PSG fait une bonne affaire ou doit se préparer à vivre quelques moments difficiles?
Si Mauro Icardi joue et il est tranquille et il sait d'être titulaire, c'est un excellent joueur et l'Inter le sait très bien. Il faudra voir maintenant, je ne connais pas très bien l'effectif du PSG, mais je sais qu'il y a Cavani, il y a Neymar, il y a Mbappé devant lui sur la hiérarchie des titulaires. Je répète, si on lui donne une chance, c'est un joueur qui a un excellent talent, et qui s'est pas gâché. cacher cette force qu'il a du point de vue technique. Eric, il faut qu'il soit tranquille. Il faut qu'il soit tranquille. C'est quelqu'un qui, du point de vue mental, a besoin vraiment de tranquillité. À l'Inter, il l'avait complètement perdu.
Eric,
il est en fait. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu parce qu'il est là aussi pour prendre la relève de Cavani. Cavani qui commence à enchaîner un petit peu les blessures. Cavani qui sera toujours reconnu comme le buteur du Paris Saint-Germain, mais qui n'est pas forcément apprécié de Neymar, n'est pas forcément apprécié, alors pas l'homme, mais dans le jeu de Neymar et de Mbappé. Donc peut-être qu'il peut y avoir une connexion plus facile avec Icardi. C'est pour ça qu'on va surveiller un petit peu la relation entre les trois. Mais il est censé prendre le relais, quoi.
Philippe, qu'est-ce que vous pensez de ce profil, Mauro Icardi?
Bon, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, je pense que c'était un très bon choix parce qu'il faut préparer le départ de Cavani. Cavani est dans sa dernière année de contrat. Un club sérieux prépare la suite. Cavani, c'est pas négligeable. Un départ de Cavani, c'est loin d'être négligeable. Il faut préparer la suite. Donc, dans ce sens-là, c'est très sérieux de la part du PSG. En plus, contractuellement, c'était intelligent puisqu'ils n'ont pas de... La clause n'est pas obligatoire. Enfin, pour ce qu'on sait. Parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait jamais tout dans ces choses-là. Mais la clause n'est pas obligatoire. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est un très bon choix. Après, à l'Inter, il pouvait pas durer. Parce que c'est devenu infernal d'ailleurs. Quand on voit déjà ce qui s'est passé pour Neymar, ça n'a pas atteint les mêmes sommets, mais quand on voit déjà ce qui s'est passé pour Neymar, c'est ahurissant. Je veux dire, vous vous rendez compte, il suffit qu'un joueur dise j'ai pas envie de rester dans le club, il faut faire quoi? Faut tuer ses enfants? Faut violer sa femme? Enfin, c'est ahurissant. On est dans un monde complètement débile, quoi. Débile. Pourquoi Icardi, il suffit qu'il soit en but avec une tribune ou je sais pas quoi, et c'est terminé, il peut plus jouer à l'Inter. C'est invraisemblable. On n'en peut plus de cette violence. Il n'y a pas que la violence des supporters. Enfin, il n'y a pas que la violence verbale, il n'y a pas que les banderoles. Ça va bien au-delà et c'est absolument insupportable.
Franck?
Je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent et il est même souhaitable que Mauro Icardi s'adapte très rapidement, s'intègre vite, marque aussi très vite puisque c'est son métier de marquer des buts. C'est un gars.
Il sait le faire.
Je me souviens d'un match européen en tout début de saison dernière, un match de phase de groupe où il touche un ballon. Tout le match, tu le vois pas et
si t'es très aigué de...
Ouais, c'est exactement ça. Voilà, nous qui sommes là souvent, on doit mettre les notes aux joueurs et tout. Si tu t'arrêtes effectivement à ce que tu vois pendant 89
minutes,
tu mets deux.
Et il a mis deux buts.
Sauf que voilà, en une touche, non seulement il va te mettre un beau but, il va t'égaliser par exemple ou te sortir ton équipe, mais il va mettre un super but. Et c'est ça la marque de fabrique de ce type-là, de ce grand attaquant, et j'ai hâte de le voir effectivement sous ce maillot-là. Après, j'ai aussi hâte de voir comment il va combiner avec les autres, parce qu'il y a des personnalités qui sont proches, que ce soit, enfin, dans le jeu, je parle. Neymar, Mbappé, on sait que ça colle. Est-ce que Icardi justement va pouvoir se fondre dans ce caramel-là? J'espère.
La question, Thomas, quand même, il y a une question autour d'Icardi, c'est quand est-ce qu'il sera au point, quand est-ce qu'il sera prêt. Peut-être que Matteo va me contredire, mais sur les 6 derniers mois, c'est un petit peu comme Rabiot au PSG, il a dû jouer des bouts de match, je crois qu'il a marqué 2-3 buts. Il va forcément lui aussi devoir reprendre le rythme, alors que voilà, on le sait, l'attaque parisienne pour l'instant est orpheline.
Est-ce qu'on va lui laisser le temps? Est-ce que Tuchel va lui dire écoute,
c'est-à-dire que je sais pas s'il aura le choix, Thomas Tuchel.
Parce que Cavani, Mbappé et Neymar ne peuvent pas jouer la Ligue des Champions.
Voilà, donc, il est peut-être pas au point, mais par la force des choses, certainement qu'on va lui dire écoute, tu dois être sur le terrain, quoi.
On verra ça dans les jours à venir. On va se recentrer sur l'Italie, hein, parce qu'on a un peu dérivé quand même vers le PSG.
Le PSG est un peu un club italien. Depuis que Leonardo est revenu. Le recrutement redevient italien.
On signale quand même que le Torino.
C'est pas de là que sont venus les plus mauvaises signatures du PSG.
C'est sûr.
Verratti est peut-être le plus constant depuis qu'il est au Paris Saint-Germain.
Ibra, Thiago Silva.
Et aussi.
C'est pas rien.
Le Torino, on le signale, compte aussi 6 points comme la Juventus et l'Inter en ce début de championnat. Et puis il y a la Fiorentina, on le disait tout à l'heure, Matteo qui a recruté Franck Ribéry, entré deux fois en jeu. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Ribéry ait un rôle un peu plus important dans ce match qui nous attend déjà juste après la trêve internationale pour la 3e journée et qui opposera la Fiorentina à la Juventus?
Je suis sûr que Franck Ribéry fera de tout pour jouer ce match, parce que c'est le match qu'à Florence on attend chaque année. C'est le derby de Florence. Ce défi est vraiment vécu par les supporters de la Fiorentina comme le vrai derby. Le grand rival de toujours de la Fiorentina, c'est la Juve. Donc, je crois que Franck Ribéry fera de tout pour être dans les 11 titulaires. C'est vrai que pour l'instant, on l'a vu très peu jouer. Il est peut-être encore un peu loin de sa meilleure forme. Je suis presque sûr, mais qui est en forme en ce moment de la saison? Seulement Cristiano Ronaldo, probablement.
Non, il y a encore pas mal de points d'interrogation, effectivement. Balotelli, par exemple, n'a pas encore commencé avec Brescia, hein, donc ça sera aussi le premier match de Balotelli. On regardera ça. Alors, comme promis, on revient maintenant sur ce match entre Cagliari et l'Inter de dimanche dernier, à ces cris de singe adressés à Romelu Lukaku. Quelle suite par les instances du football italien, Matteo? Est-ce que déjà il va y avoir des sanctions ou pas?
Pour l'instant, on n'est pas au courant d'aucune sanction. On continue à en parler. C'est toujours la même histoire qui se répète. Et pourtant, en Italie, la Fédération de football a approuvé en janvier de cette année une loi qui prévoit qu'une rencontre de foot puisse être interrompue en cas d'écrit ou de comportement raciste de la part des supporters. Pour l'instant, aucun match n'a jamais été arrêté. Et la question est pourquoi, vu qu'il y a eu toujours des cas de racisme dans les stades. La réponse, selon mon avis, est liée à deux raisons. D'un côté, on a encore peur que interrompre un match puisse causer des problèmes d'ordre public. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui croient que si on arrête une rencontre, on légitime le pouvoir de ce soi-disant supporter. J'ai vraiment du mal à les appeler des supporters. Qui pourrait désormais décider le sort de tous les matchs toutes les fois qui
ça c'est le point de vue entendus. C'est le point de vue qu'a exprimé Matuidi cet après-midi à Clairefontaine, hein, en rassemblement avec l'équipe de France. Il a dit si on quitte la pelouse, on donne raison à ceux qui crient.
Alors, je suis tout à fait d'accord.
Il faut quand même parler de cette réaction d'un groupe ultra. Bon, tout le monde a vu passer ce communiqué adressé à Lukaku et signé par un groupe d'ultra de l'Inter. Bon, j'en lis quelques lignes. Tu dois comprendre, donc Lukaku doit comprendre que l'Italie n'est pas comme beaucoup d'autres pays européens où le racisme est un vrai problème. Nous comprenons que tu aies pu le croire, mais ce n'est pas le cas. En Italie, nous avons certaines façons de faire pour aider l'équipe et essayer de rendre nos adversaires nerveux, pas par racisme, mais pour les faire rater. Voilà, c'est une lettre d'excuse assez bizarre.
Mais c'est pas une d'excuse, mais c'est surtout que ça peut toucher sur tous les propos, c'est-à-dire par rapport aux insultes. Alors, on va banaliser l'insulte du dégagement du gardien, on va dire, voilà, je dis pas le mot, mais voilà, c'est banaliser les insultes. Et le racisme, et c'est pas normal. Peut-être que la solution n'est pas de sortir du terrain et tout ça, parce que c'est vrai que ça peut donner une certaine force de frappe à ses supporters. Mais il y a tellement de sanctions qu'on peut donner. Alors peut-être que ça va se retourner sur les sanctions points de l'équipe. Il y a plein de choses à prendre comme en considération comme sanctions. Qui vont avoir beaucoup plus de poids que peut-être la sortie des joueurs du terrain. Donc c'est à la Fédé italienne de trouver la solution et de prendre des sanctions et de pas faire comme si c'est vrai, on est désolé et on laisse passer des choses pour se dire on verra la prochaine fois. Non, là maintenant il faut agir.
Franck, un VAR contre le racisme.
Franck,
c'est pas une mauvaise idée. Non, c'est on peut pas être de toute façon, on peut pas être ou plus être dans la prévention, il faut être dans l'action et sans doute dans la punition, dans la sanction. Alors, est-ce que c'est aussi de fermer certaines zones? Je ne sais pas. Voilà les zones où étaient les ultras de la Courva Nord. Je sais pas. Mais dans tous les cas de figure, ils sont forcément identifiables. Il y a des caméras dans les stades. Oui. On sait qui c'est. Il y a tout ce processus d'identification, normalement, de chaque supporter. On l'a vu jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où chaque personne qui entrait au stade avait son fan ID. Et il faut en arriver vraiment pour ne, justement ne pas banaliser ça, jamais banaliser ça, quoi. Parce que c'est un mal terrible. Philippe l'a évoqué tout à l'heure un petit peu avec ce qui se passe avec Neymar. Ça rejoint un petit peu ça aussi. C'est aussi une forme de grosse violence. Et dans tous les cas, que ça soit en Italie, en France ou ailleurs, surtout lutter contre ça. Mais c'est facile de le dire. Mais comment faire appliquer les lois?
On voit bien que c'est long, déjà.
Matteo vous a expliqué qu'il y a une loi qui a été votée, et puis on en est où?
Et les Français en ce moment, enfin, la Ligue en ce moment a décidé d'arrêter les matchs dès qu'il y avait... elle s'occupe plus de l'homophobie que de racisme. Enfin, je suppose
ça
que...
Ça se rejoint, Philippe.
En tout cas, oui, ça se rejoint. Et puis, s'il y avait des cas de racisme, ce serait exactement... Évidemment, les mêmes choses seraient appliquées. Donc, on peut, évidemment, il n'y a pas de critique là-dessous. Mais on sent bien que ce n'est pas la solution. Parce que les supporters jouent là-dessus. Multiplient les provocations, tournent autour, font une petite banderole ironique.
C'est devenu un jeu, entre guillemets.
C'est presque pire. Ouais, donc on sent bien que c'est pas la solution. Et moi, je suis comme Franck. Hein. Pour moi, il faut fonder ça, solution radicale.
Tolérance zéro.
C'est pas parce que le côté nous on est latins, on est machin. Non. Il faut aller voir ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais, les gens inconvenants. Que je dis inconvenants, c'est pas forcément raciste, machin. Les gens qui gênent des spectateurs autour d'eux, les clubs leur déchirent leur carte d'abonnement, les dénoncent à la police. Mais il faut aller là-dedans, puisque ça devient une zone de non-droit où les gens se permettent des choses ahurissantes qu'ils n'oseraient pas faire dans la rue. Eh bien, allons jusque-là et virons les brebis galeuses et sévèrement. Les Anglais virent, dénoncent. Moi, j'ai vu des articles de journaux, j'avais jamais vu ça ailleurs. Après un Chelsea Crystal Palace où à la fin les gens de Crystal Palace allument des fumigènes. C'est pas dramatique, on n'est pas dans une dramatique d'homophobie ou de ils allument des fumigènes. Le lendemain, l'article du journaliste se termine, les trois dernières lignes c'est la police demande d'ailleurs, il relaie la demande de la police à ce que tous les gens qui ont vu lesquels supporters ont allumé des fumigènes, etc., et les dénoncent. Mmh. Ouais. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Alors nous, on est choqués. On dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est invraisemblable d'appeler à la dénonciation, c'est pas bien. Mais enfin, en même temps, les stades sont devenus... C'est tellement épouvantable, le climat dans les stades aujourd'hui, que moi, aujourd'hui, je ne vois que ces solutions-là pour éradiquer ça.
Mathéo, un petit mot de conclusion par rapport peut-être à ce communiqué, là, comment ça a été reçu en Italie, ce communiqué des ultras, rapidement ?
Il a été décrit comme le communiqué de presse des supporters les plus débiles de l'histoire du calcio. Si vous allez sur les réseaux sociaux, on a lu de tout vraiment, mais vraiment là, on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est les mêmes supporters que l'année passée avaient fait le cri de singe à Koulibaly, hein, ceux de l'Inter. On les connaît bien, on connaît bien les supporters du barrage, hein, parce que je voudrais absolument pas généraliser, parce que ce serait une erreur terrible. Il y a une centaine de gens qui on sait bien où ils sont. Ils sont dans le barrage nord de l'Inter. On sait bien où ils sont à Cagliari, où on sait bien où ils sont à Vérone, on sait bien où ils sont lorsqu'ils suivent la Lazio. On les connaît, c'est toujours les mêmes groupes de supporters. À mon avis, la solution est liée à l'utilisation des moyens techniques. On a des caméras partout. Lorsqu'on fait un hold-up dans une banque, on filme tout. Pourquoi on ne fait pas la même chose dans les stades ? Il faut les utiliser. Si on arrête un match, ils ont gagné. C'est les autres qui ont gagné.
Ouais. En tout cas, cette minorité se sent assez libre, puisqu'elle dit aussi dans son communiqué qu'elle a utilisé ses moyens par le passé et qu'elle le refera probablement. Merci beaucoup, Matteo Cioffi. On vous laisse en Italie, l'Italie concernée évidemment par les éliminatoires de l'Euro 2020. Mais dans les matchs de cette fin de semaine, il y a quand même une affiche qui brille un peu plus que les autres. C'est cette Allemagne-Pays-Bas. Grand classique qui est programmé ce vendredi à Hambourg. Donc, alors, quand on regarde le classement de ce groupe, qui est un groupe de 5 équipes, on trouve l'Irlande du Nord qui est en tête, qui a gagné ses 4 premiers matchs, 4 matchs joués, 4 victoires, mais gagnés tous contre la Biélorussie et l'Estonie. Et on a quand même l'impression que ça va finir par se jouer, Philippe, entre ces deux-là, entre l'Allemagne et les Pays-Bas.
On serait étonné que les Pays-Bas, notamment, ratent une fois de plus l'euro. L'euro est à 24 maintenant. Il est grand temps que les Pays-Bas reviennent, ils l'ont fait d'ailleurs à travers la Ligue des Nations, reviennent dans le gotha des bonnes équipes, ils ont de très bons joueurs. Il n'y a aucune raison qu'ils ne reviennent pas. D'ailleurs, ils avaient battu l'Allemagne d'ailleurs à cette occasion-là, assez nettement. Il est grand temps qu'ils reviennent effectivement dans ce gotha. Et puis, on est obligé de s'accrocher à cette affiche parce que, moi, je remarque juste une chose. Je fais un petit biais, pardon, Christophe, mais je fais un petit biais. Mais ces qualifications, personne n'en parle.
C'est vrai.
À l'euro.
C'est vrai.
Il y a deux raisons à cela. Un, le mercato passionne absolument tout le monde. On se demande si le terrain intéresse encore les gens. On se demande si c'est pas plus intéressant de faire des journaux sur le spécialisé dans le mercato que de parler de football. Arriver, on se demande, on se pose des questions. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement la Ligue des Nations a ringardisé quelque part les qualifications, parce que la Ligue des Nations, en rassemblant les meilleures équipes ou les équipes du même niveau, a eu un intérêt à tous les niveaux. Et finalement là, on s'aperçoit que tout d'un coup, y a beaucoup de matchs genre des France, Albanie,
Belgique,
des choses comme ça. Et que du coup, quand dans un groupe, parce qu'il y en a pas beaucoup, il a fallu que les Pays-Bas soient un peu déclassés. Dans un groupe, il y a Allemagne-Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ne sont plus tête de série. On se dit, oh là là, quelle aubaine, enfin un bon match, mais malheureusement, il y en a plus beaucoup.
Il vous intéresse ce match, Franck, quand même?
Absolument pas.
C'est vrai?
Non. Je vais pas vous mentir, vous me posez la question et
tu vois,
je m'en moque comme de l'an 40, je suis pressé de savoir les résultats des matchs africains qui se déroulent en ce moment. Et pour ce qui est du match Allemagne-Pays-Bas, qu'il se fasse plaisir. Effectivement, je pense que il y a un public pour ces rencontres-là. Moi, je fais pas partie non plus, même si je travaille pour une publication France Football qui effectivement parle transfert, mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc qui m'attire au plus haut point, même si ça reste une super affiche, oui. Évidemment, voilà. Après, c'est la passion et le goût des gens qui fait la différence, mais il y a des super joueurs et je jetterai évidemment un œil aux résultats.
On pourrait voir, par exemple, le premier match officiel d'un certain Kai Havertz. Qui est
vous me passionnez, Christophe.
La petite pépite, si.
C'est ce que je vous dis, vous me passionnez.
Non, ça vous intéresse pas non plus.
Si, on vous écoute. Qui est Kai Havertz?
C'est le meneur de jeu de Leverkusen. Il a 20 ans.
Oui.
Et il est présenté comme l'un des grands talents de sa génération.
C'est la nouvelle génération allemande. Voilà. Bon. Voilà, là, vous me
le
vendez bien.
Parce que l'Allemagne est quand même sur le déclin pour l'instant. Donc, les Pays-Bas sont en train de se redorer un peu le blason. Donc, ça reste quand même une affiche intéressante.
Bon.
La vérité, c'est qu'à 24 qualifiés,
oui.
Les qualifications de l'Euro deviennent, c'est vraiment epsilon. Bon, c'est vrai que les Pays-Bas n'ont pas été qualifiés la dernière fois. C'était le seul absent.
Ils ont raté l'Euro, ils ont raté la Coupe du Monde.
Oui, sur la Coupe du Monde, on peut la rater parce que là, il y a moins de place.
Allez, la Coupe du Monde.
Enfin, bientôt, la Coupe du Monde sera 48, vous inquiétez pas, tout le monde y sera.
En attendant, Qatar 2022, il n'y aura pas encore d'augmentation. Et les éliminatoires ont commencé en Afrique. Olivier Pont,
enfin, Christophe. Ah, voilà.
Venons-en au vrai football.
Olivier Pont, c'est ça qu'il voulait. Olivier Pont a donné les premiers résultats hier. Thomas, le Rwanda a joué aujourd'hui, déjà.
Et le Rwanda a gagné facilement aux Seychelles. 3-0, alors je vais vous donner les buteurs quand même. Hakizimana, Mukunzi, Kagere, voilà, rien à redire. J'en parlais pour dévoiler les secrets de préparation de cette émission avec France Simon juste avant la prise d'antenne. D'accord. Il me disait qu'il avait subi ça d'un œil tout à fait passionné.
Bien sûr, tous les matchs m'intéressent.
Et qu'il n'y avait pas eu photo, hein,
mais,
Franck.
Mais pas Allemagne.
Allemagne-Pays-Bas. Mais je te le laisse, Eric, ça a l'air de t'émotionner, cette réponse, et je la confirme. Je vous la signerai même sur les réseaux sociaux si vous voulez. C'est la mode maintenant. Mais évidemment, bravo aux Amavubi. Mais bon, on sait qu'il n'y a pas photo entre les Seychellois là qui viennent de rappeler pour la énième fois le vieux Yann Mack, le sélectionneur néerlandais. 74 ans, il pouvait pas faire des miracles face à une équipe qui a vraiment d'excellents joueurs. On l'a cité, le dernier buteur, Mehdi Kagere, par exemple, qui était à Simba en Tanzanie. Mais je crois qu'il est parti là. C'est bien parti pour eux, mais encore une fois, no surprise.
C'est un tour préliminaire. Allez, hein. Donc, allez. C'est un premier écrémage. On prend les 28 équipes les moins bien classées sur le continent au classement FIFA.
Et il y a le Togo de Colo.
Il y a quand même Comores Togo.
Comores, c'est pas facile. Ouais. Hein.
Oui. Là, il y a suspense.
Ouais. Et il y a même le Tchad contre le Soudan.
Il y a des petites pointures et il y a même des gens qu'on a vus à la CAN. Équipes qu'on a vues à la CAN.
Oui, des gens du coup.
On avait six.
Alors, pas les sélectionneurs parce qu'ils ont presque tous changé.
Voilà. Allez-y, Thomas. Ne vous laissez pas impressionner.
Trois équipes présentes à la CAN. Et d'ailleurs, il y en a même deux qui s'affrontaient hier.
Il y en a six en tout.
Ben, nous, on a compté trois.
Il y en a qui jouent encore.
Bon, en tout cas, Burundi-Tanzanie, hier, ça faisait un partout.
Voilà, Modja.
Voilà, avec on parlait de joueurs qu'on a vus à la CAN, et ben Saïdo Berahino par exemple, il était là. Fiston Abdulrazak, il est rentré en cours de match. Et puis Cédric Amissi, qui avait été assez remuant, très remuant même, on peut le dire, avec les hirondelles pendant la CAN, et ben lui, il a marqué l'égalisation tanzanienne et signé Msouva sur une grosse erreur de la défense Brune. C'était
c'est un petit peu embêtant parce qu'il jouait dans le stade qui a été rebaptisé Stade des Héros, Stade Intouari, ancien prince Louis Ragasoré. Et en fait, ils avaient vraiment l'intention de remporter ce derby parce que c'est un derby est-africain. La Tanzanie, ils se sont fait un petit peu moquer par les médias tanzaniens, les Burundais. Et du coup, ce match nul avec le but encaissé à la maison, ça leur porte pas mal de tort, quoi. Il va falloir faire quelque chose à Dar es Salaam.
Autre pays qui disputait la CAN, Christophe, la Namibie, qui est allée gagner en Érythrée 2-1. Peter Chaloulilé. Et un but contre son camp pour donner la victoire aux Namibiens. Vous me contredirez peut-être, Franck, mais toujours pas de sélectionneur, hein, c'est ça?
Si.
Un intérimaire?
Bobby Samaria. Il a pas, effectivement, c'est un intérimaire. Mais si ça fonctionne, nul doute. Vous savez, la Namibie, c'est un pays qui aime bien avoir des sélectionneurs nationaux, locaux. C'est le cas avec Samaria comme Manetti avant lui.
Les sélectionneurs, Christophe, vous voulez, je suis sûr, me parler d'un sélectionneur qui revient sur un banc de touche, c'est
voilà,
ça?
Voilà, Emmanuel Trégouat, qui avait fait 2014-2015 à la tête du Tchad.
Voilà.
Des Sao du Tchad, ouais.
Voilà, de retour après une première aventure qui s'était quand même moyennement terminée, on va le dire. Il a vu à l'époque des mots assez durs pour critiquer le manque de professionnalisme de la sélection. Il est de retour depuis une grosse semaine. C'est court pour préparer la double confrontation contre le Soudan, mais pour lui, c'était pas un énorme problème, c'est ce qu'il vous disait il y a quelques jours.
Bon, ça fait quelques temps que ça couvait un peu. J'avais été un peu contacté. Quand le ministre m'a contacté il y a maintenant une quinzaine de jours, bon, je savais déjà qui j'allais sélectionner, les contacts que j'avais déjà pris. Et, bon, c'est pas catastrophique ce manque de temps.
C'est donc pour vous un retour à la tête d'une sélection. Vous y étiez resté à ce poste pendant environ un an et demi, entre 2014 et 2015. Et ça ne s'était pas très bien terminé, hein, avec des accusations d'incompétence que vous aviez lancées contre certains dirigeants, notamment contre le président de la fédération. Est-ce que c'est possible de repartir sur de nouvelles bases complètement?
Oui et non. Oui, parce que en fait, même si ça pouvait paraître comme des accusations d'incompétence, mais c'était factuel. C'est-à-dire que tout ce que je disais, il n'y avait rien de romancé. Le livre que j'ai écrit, il n'y avait rien de romancé. Donc après, quand on dit la vérité, les gens, ça leur plaît pas forcément. Mais voilà, depuis, ils ont mûri, ils ont travaillé. Il y a un nouveau ministre aussi qui impose des choses. Il y a un président de la République qui impose des choses. Et donc les gens de la fédération m'ont accueilli avec plus aussi d'efforts à faire. Ils sont conscients des efforts à faire, ils sont conscients des manques qu'il y a pu avoir. On est des grandes personnes, on est resté dans la limite de la correction. Après, on peut dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, on peut dire à quelqu'un que ce qu'il a fait était pas bien pour la sélection. Après, ce n'était jamais des attaques personnelles comme ça de Pierre-Paul Jacques. Je ne voulais œuvrer que pour le bien-être de la sélection, pour la recherche de résultats. Et à ce jour, je reste quand même le seul entraîneur à avoir gagné un titre avec eux, même si ce n'est qu'une coupe sous-régionale qui s'appelle la CEMAC. On a discuté longuement avec le président de la fédération, ça se passe très bien. Après, on verra aussi sur la durée, parce que là, ce que je vous dis, je travaille depuis une semaine, donc on verra bien. Mais pour l'instant, sincèrement, tout se passe bien.
Voilà, Emmanuel Trégouat qui, évidemment, va prospecter aussi pour renforcer cette équipe du Tchad qui se lance à l'assaut aussi de la prochaine CAN, hein, ce sera le mois prochain. Le tour préliminaire. Innovation, messieurs, FIFA.com. diffuse ces matchs en direct. Qu'est-ce que vous
Chouette.
En pensez?
C'est sympa, ça.
Franck. Très bien, parce que ça permet...
C'est nouveau.
D'abord, c'est nouveau, c'est un accès libre pour tout le monde. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus gêné d'aller essayer de trouver, on n'est plus besoin d'avoir un abonnement de quel que ce soit. Vous êtes sur Internet, sur votre téléphone, vous allez voir le match, et c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir tous ces pays évoluer. C'est parfois en même temps, quoi, mais vous pouvez revoir les matchs, quoi, aussi. Et c'est un accès très positif, je trouve.
Philippe, très positif, surtout que ça s'accompagne quand même d'une recherche au niveau production, d'élévation du niveau de la production pour ces matchs. Après, il faut pas être naïf, c'est-à-dire c'est évidemment pour relancer un peu le business, et évidemment il faut pas croire que c'est à terme ce sera gratuit toute la vie. Évidemment c'est pour relancer les business, qui est une qualité de production meilleure et que les droits soient plus tard acquis par les chaînes, mais c'est une très bonne stratégie au bénéfice de l'Afrique. Donc on va évidemment applaudir.
Merci beaucoup, messieurs. Éric Rabaï-Sambratana, Franck Simon, Philippe Doucet, Thomas de Saint-Léger. Merci à Ralph aussi, notre stagiaire qui était en studio avec nous. Merci à Laurence Alarnaud et David Finzel. À demain pour le Café des Sports.